Chapitre 6. Ptolomeï gagne. Ptolomeï, cette nuit-là, ne dormit pour ainsi dire pas. Marigny aura-t-il averti son frère ? Se demandait-il. Et l'archevêque lui aura-t-il avoué ce qu'il a laissé en mes mains ? Ne vont-ils pas se hâter d'obtenir dans la nuit le sein du roi afin de me devancer ? Ou bien ne vont-ils pas se concerter pour m'assassiner ? Se retournant dans son insomnie, Ptolomeï pensait avec amertume à sa seconde patrie qu'il considérait avoir si bien servi de son travail et de son argent. Parce qu'il s'y était enrichi, il tenait à la France plus qu'à sa Toscane natale et l'aimait vraiment à sa manière. Ne plus sentir sous ses semelles le pavé de la rue des Lombards, ne plus entendre à midi le bourdon de Notre-Dame, ne plus respirer l'odeur de la Seine, ne plus se rendre aux réunions du parloir aux bourgeois, tous ces renoncements lui déchiraient le cœur. Aller recommencer une fortune ailleurs, à mon âge. Si encore on me laisse la vie pour recommencer. Il ne s'assoupit qu'avec l'aube, pour être bientôt réveillé par des coups de heurtoir et des bruits de pas dans sa cour. Il crut qu'on venait l'arrêter et se jeta dans ses vêtements. Un valet tout effaré parut.
« Monseigneur l'archevêque est en bas, » dit-il.
« Qui l'accompagne ?
Quatre serviteurs en froc, mais qui ressemblent plus à des sergents de prévôté qu'à des clercs de chapitre. »
Ptolomeï fit une moue.
« Ôte les volets de mon cabinet, » dit-il.
Monseigneur Jean de Marigny montait déjà l'escalier. Ptolomeï l'attendit, debout sur le palier. Mince, une croix d'or lui battant la poitrine, l'archevêque affronta aussitôt le banquier.
« Que veut dire, messère, cet étrange message que mon frère m'a fait tenir dans la soirée ?»
Ptolomeï éleva ses mains grasses et pointues d'un geste apaisant.
« Rien qui vous doive troubler, monseigneur, ni qui mérite votre dérangement. Je me serais rendu à votre convenance au palais épiscopal. Voulez-vous entrer dans mon cabinet ?»
Le valet achevait de décrocher les volets intérieurs ornementés de peinture. Il mit du bois menu sur les braises du foyer, et bientôt des flammes montèrent avec un pétillement. Ptolomeï avança un siège à son visiteur.
« Vous êtes venu en compagnie, monseigneur, » dit-il. « Était-ce bien utile ? N'avez-vous point confiance en moi ? Pensez-vous courir ici quelque péril ? Vous m'aviez, je dois dire, habitué à d'autres manières. »
Sa voix s'efforçait d'être cordiale, mais son accent toscan était plus prononcé que de coutume. Jean de Marigny s'assit en face du feu, vers lequel il tendit sa main baguée.
« Cet homme-là n'est pas sûr de lui et ne sait comment me prendre, » pensa Ptolomeï. « Il arrive avec un grand fracas, comme s'il allait tout briser, et puis maintenant il se regarde les ongles.
« Votre hâte à me voir m'a donné sujet d'inquiétude, » dit enfin l'archevêque. « J'aurais préféré choisir le temps de ma visite. »
« Mais vous l'avez choisi, monseigneur, vous l'avez choisi. Vous vous rappelez avoir reçu de moi 2000 livres en avance sur des articles fort précieux qui provenaient des biens du temple et que vous m'avez confiés à la vente.
« Ont-ils été vendus ? » demanda l'archevêque.
« En partie, monseigneur, en bonne partie. Ils ont été envoyés hors de France, comme nous en étions convenus, puisque nous ne pouvions les écouler ici. » J'attends l'avis de compte. J'espère qu'il y aura dessus argent à vous revenir. »
Ptolomeï, son gros corps bien campé, les mains croisées sur le ventre, hochait la tête avec bonhomie.
« La décharge que je vous ai signée ne vous est donc plus nécessaire, » dit Jean de Marigny.
Il cachait son inquiétude, mais il la cachait mal.
« N'avez-vous pas froid, monseigneur ? Vous avez le visage bien blanc, » dit Ptolomeï qui se baissa, pour mettre une bûche dans le feu.
Puis, comme s'il avait oublié la question posée par l'archevêque, il reprit.
« Que pensez-vous, monseigneur, de la question dont on a cette semaine débattu en conseil ? Est-il possible qu'on projette de nous voler nos biens, de nous réduire à la misère, à l'exil, à la mort ?»«
Je n'ai pas d'avis, » dit l'archevêque. « Ce sont affaires du royaume. » Ptolomeï secoua le front.
« J'ai transmis hier à monseigneur le coadjuteur une proposition dont il ne me semble pas qu'il ait bien aperçu l'avantage. C'est regrettable. On se dispose à nous spolier parce que le royaume est à court de monnaie. Or, nous offrons de servir le royaume par un prêt énorme, monseigneur, et votre frère reste muet. Ne vous en a-t-il point touché mot ? C'est C'est regrettable, bien regrettable, en vérité. »
Jean de Marigny se déplaça un peu sur son siège.
« Je n'ai pas titre à discuter les décisions du roi, » dit-il.
« Ce ne sont point encore décisions, » répliqua Tholomeï. « Ne pouvez-vous remontrer aux coadjuteurs que les Lombards, sommés de donner leur vie, qui est tout au roi, croyez-le, et leur or, qui est à lui tout également, voudraient, s'il se peut, garder la vie ?»«
J'entends par la vie leur droit à demeurer en ce royaume. Ils offrent l'or de bon gré alors qu'on le leur veut prendre de force. Pourquoi ne pas les entendre ? C'est à cette fin, monseigneur, que je souhaitais vous voir. »
Un silence se fit. Jean de Marigny, immobile, semblait regarder au-delà des murs.
« Que me disiez-vous tout à l'heure ?» reprit Tholomeï.
« Ah oui, cette décharge. Vous allez me la rendre, » dit l'archevêque. Tholomeï se passa la langue sur les lèvres. « Qu'en feriez-vous, monseigneur, si vous étiez à ma place ?»«
Imaginez un instant. » Ce n'est qu'étrange imagination, assurément, mais imaginez que l'on menace de vous ruiner et que vous possédiez quelque chose, un talisman, c'est cela, un talisman qui puisse vous servir à éviter cette ruine.
Il alla vers la fenêtre, car il entendait du bruit dans la cour. Des porteurs délivraient des caisses et des ballots d'étoffe. Tholomeï évalua machinalement le montant des marchandises qui allaient entrer chez lui ce jour-là et soupira.
« Oui, un talisman contre la ruine, » murmura-t-il.
« Vous ne voulez pas dire « si, monseigneur ?»«
Je veux le dire et je le dis, »
prononça nettement Tholomeï.
« Cette décharge témoigne que vous avez trafiqué des biens du temple qui étaient sous séquestre royal. Elle témoigne que vous avez volé. » Et voler le roi.
Il regardait l'archevêque bien en face.
Cette fois, pensa-t-il, tout est fait. C'est à qui fléchira le premier.
Vous serez tenu pour mon complice, dit Jean de Marigny.
Alors nous nous balancerons ensemble à Montfaucon comme deux larrons, répondit Tholomeï froidement. Mais je ne me balancerai pas seul.
Vous êtes un bien fort coquin, s'écria Jean de Marigny. Tholomeï haussa les épaules.
Je ne suis pas archevêque, monseigneur, et ce n'est pas moi qui ai détourné les ostensoirs d'or où les Templiers présentaient le corps du Christ. Je ne suis qu'un marchand, et en ce moment, nous traitons un marché, que cela vous convienne ou non. Voilà la seule vérité de toutes nos paroles. Point de spoliation des Lombards et point de scandale sur vous. Mais si je tombe, monseigneur, vous tomberez aussi, et de plus haut. Et votre frère, qui a trop de fortune pour n'avoir que des amis, sera entraîné à votre suite. »
L'archevêque s'était levé. Il avait les lèvres blanches. Son menton, ses mains et tout son corps tremblaient. « Rendez-moi la décharge !» dit-il en saisissant le bras de Tholomeï. Celui-ci se dégagea doucement.
« Non, » dit-il.
« Je vous rembourse les 2000 livres que vous m'avez donnés, » dit Jean de Marigny, « et vous gardez tous les fruits de la vente. »«
Non. »«
Je vous donne d'autres objets pour même valeur. »«
Non. »«
5000 livres. Je vous donne 5000 livres contre cette décharge. »
Tholomeï sourit. « Et où les prendriez-vous ? Il faudrait encore que je vous les prête. »
Jean de Marigny, les poings serrés, répéta. « 5000 livres. Je les trouverai. Mon frère m'aidera. »
« Mais qu'il vous aide donc comme je vous en requiers, » dit Tholomeï en ouvrant les mains. « J'offre pour ma seule cote-part 17 000 livres au trésor royal. »
L'archevêque comprit qu'il lui fallait changer de tactique.
« Et si j'obtiens de mon frère que vous soyez accepté de l'ordonnance ? On vous laisse emporter toute votre fortune. On vous rachète vos biens immeubles. »
Tholomeï réfléchit un instant. On lui donnait le moyen de se sauver seul. Tout homme sensé à qui l'on fait une proposition de cette sorte la considère et n'en a que plus de mérite lorsqu'il la repousse.
« Non, monseigneur, » répondit-il, « je subirai le sort qui sera fait à tous. Je ne veux point recommencer ailleurs et n'ai point de raison de le faire. Je suis de France maintenant, autant que vous l'êtes. Je suis bourgeois du roi. Je veux rester dans cette maison que j'ai construite à Paris. J'ai passé 32 ans de ma vie, monseigneur, et si Dieu veut, c'est ici que ma vie s'achèvera. Du reste, ajouta-t-il, eussé-je le désir de vous restituer la décharge, je ne le pourrai pas. Je ne l'ai plus en main.
Vous mentez !
S'écria l'archevêque. Non, monseigneur. Jean de Marigny porta la main à sa croix pectorale et la serra comme s'il allait la briser. Il eut un regard vers la fenêtre, puis vers la porte.
Vous pouvez appeler votre escorte et faire fouiller ma demeure, dit Tholomeï. Vous pouvez même mettre les pieds à rôtir dans la cheminée, ainsi que cela se pratique dans vos tribunaux d'inquisition. Vous causerez grand tapage et scandale, mais vous repartirez tel que vous êtes venu, que je sois mort ou vif. Mais si d'aventure j'étais mort, sachez que cela ne vous rapporterait guère. Car mes parents de Sienne ont ordre, s'il m'arrivait de trépasser trop tôt, d'avoir à faire connaître cette décharge au roi et au grand baron. Dans son corps gras, le cœur battait vite, et la sueur lui coulait sur les reins.
À Sienne ? Dit l'archevêque. Mais vous m'aviez assuré que cette pièce ne sortirait pas de vos coffres.
Elle n'en est pas sortie, monseigneur. Ma famille et moi, c'est tout un.
L'archevêque fléchissait. Tholomeï sentit en ce moment précis qu'il avait gagné et que les choses allaient à présent s'enchaîner comme il le souhaitait.
« Alors ?» demanda Marigny.
« Alors, monseigneur, dit Tholomeï calmement, je n'ai rien d'autre à vous dire que ce que je vous ai déclaré tout à l'heure. Parlez au coadjuteur et pressez-le d'accepter l'offre que je lui ai faite pendant qu'il en est temps. Sinon... »
Le banquier, sans achever sa phrase, alla vers la porte et l'ouvrit. La scène qui, le jour même, opposa l'archevêque à son frère fut terrible. Mis brusquement face à face, dans la nudité de leur nature, les deux Marigny, qui jusqu'alors avaient marché d'un même pas, se déchiraient. Le coadjuteur accabla son cadet de reproches et de mépris, et le cadet se défendit comme il put, avec lâcheté.
« Vous avez bonne mine de m'écraser !»
s'écria-t-il.
« D'où vous est venue votre richesse? De quel juif écorché? De quel templier grillé? Je n'ai fait que vous imiter. Je vous ai assez servi dans vos manœuvres. Servez-moi à votre tour. Si j'avais su qui vous étiez, je ne vous aurais point fait archevêque, » dit Enguerrand. « Vous ne trouviez personne qui accepta de condamner le grand maître. »
Oui. Le coadjuteur savait que l'exercice du pouvoir oblige à des collusions indignes. Mais il était écrasé soudain d'en voir les faits dans sa propre famille. Un homme qui acceptait de vendre sa conscience contre une mitre pouvait aussi bien voler, aussi bien trahir. Cet homme était son frère, voilà tout. Enguerrand de Marigny prit son projet d'ordonnance contre les Lombards et, de rage, le jeta dans le feu. « Tant de travail pour rien, dit-il. Tant de travail !»